Europe 1, il est 7h.
Europe Matin. Dimitri Pavlenko.
Et à la une ce matin, le retour à une vie presque normale. Eh bien, c'est imminent. Février marquera le début de l'allègement des restrictions. Deux dates à retenir, les 2 et 16 février. Les détails dès le début de ce journal. Assouplissement lié évidemment à l'évolution de la situation sanitaire. Les contaminations sont toujours aussi élevées, mais les hospitalisations dans les unités de soins critiques marquent une légère baisse. Et puis, nous sommes à 15 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Et cet avertissement du CIO des autorités chinoises aux athlètes, prière de ne pas vous exprimer pendant la période des Jeux sur la sensible question des droits de l'homme. Le journal, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le gouvernement lâche donc un peu de lest sur les restrictions. Deux dates à retenir dans le calendrier dévoilé hier soir, les 2 et 16 février. Le Premier ministre Jean Castex a détaillé le protocole de ce retour à une vie presque normale.
À compter donc du mercredi 2 février, tous les équipements, notamment sportifs et culturels, qui accueillent du public assis pourront retrouver un fonctionnement à pleine capacité, sans jauge, en respectant cependant l'obligation du port du masque. Le télétravail ne sera plus obligatoire, mais restera recommandé en laissant aux entreprises le soin de maintenir le bon niveau. Le port du masque ne sera plus exigé en extérieur. À compter du mercredi 16 février, nous lèverons les autres mesures. La consommation dans les stades, les cinémas ou les transports sera à nouveau autorisée. Les concerts debout et la consommation debout dans les bars pourront reprendre. Les discothèques pourront rouvrir.
Le Premier ministre qui renvoie par ailleurs au 7 mars l'allègement du protocole sanitaire dans les écoles, c'est-à-dire au retour des vacances scolaires.
Ah, donc cet allègement des restrictions répond à une logique sanitaire, mais aussi politique. Le variant Omicron est certes très contagieux, mais il est aussi, maintenant on le sait, moins dangereux.
Une situation paradoxale, contrastée même selon le Conseil scientifique. Les contaminations restent élevées, plus de 330 000 nouveaux cas quotidiens en moyenne, mais il y a moins de malades hospitalisés dans une unité de soins critiques. Yasmina Katou, c'est du côté de ces indicateurs qu'il faut regarder pour comprendre la décision de l'exécutif.
Tout d'abord, le variant Delta, plus susceptible de provoquer des formes graves, ne représente que 2% de la totalité des cas. Aujourd'hui, 97% des malades sont infectés avec Omicron. Alors même si Omicron entraîne une hausse des hospitalisations chaque jour, les durées sont plus courtes. En revanche, du côté des soins critiques, s'amorce un début de décrue. Sur les 7 derniers jours, le nombre moyen d'entrées quotidiennes dans ces services a diminué de 15%. Le professeur Gilali Annan, chef du service réanimation de Garches en Ile-de-France, l'a constaté.
Depuis à peu près une petite semaine, on observe moindre tension. Nous avons moins de sollicitations pour admettre de nouveaux patients avec des formes graves. Néanmoins, restons très prudents avant d'imaginer que nous avons passé le pic de la vague Omicron.
Autre indicateur, le taux d'incidence. Le nombre de cas pour 100 000 habitants diminue en Ile-de-France. Le gouvernement espère le même scénario sur tout le territoire. Il prend comme exemple ce qui s'est passé au Royaume-Uni, où la région du Grand Londres a atteint son pic 10 jours avant le reste du pays.
Explication Yasmina Katou.
Alors voilà pour les allègements, la partie sucre, dirons-nous, voilà la partie glace. Le gouvernement s'accroche au pass vaccinal, dont l'entrée en vigueur est prévue lundi prochain.
Et sauf si le Conseil constitutionnel en décide autrement, décision des sages attendue aujourd'hui. S'il le valide, le pass vaccinal sera obligatoire dès 16 ans. Lundi prochain, c'est également la date retenue pour le rappel vaccinal des adolescents de 12 à 17 ans. Rappel recommandé, mais pas obligatoire, précise l'exécutif.
Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur l'allègement des mesures sanitaires. Il est 7h04, c'est un jugement très attendu. Le tribunal correctionnel se prononce aujourd'hui sur l'affaire dite des sondages de l'Élysée.
5 anciens conseillers de Nicolas Sarkozy sont poursuivis pour des soupçons de favoritisme et de détournement d'argent public. Parmi les prévenus, Claude Guéant, l'ancien ministre de l'Intérieur, est en prison depuis plus d'un mois après avoir été condamné dans une autre affaire. Une incarcération qu'il vit de plus en plus mal, William Molinier.
Oui, il a passé Noël et son 77e anniversaire à la prison de la Santé à Paris. Son entourage le dit très affecté, en colère, humilié. Il faut dire que c'est la première fois qu'un ancien ministre de l'Intérieur se retrouve ainsi derrière les barreaux. Alors même s'il a intégré le quartier VIP de la maison d'arrêt et qu'il est seul dans sa cellule de 9 mètres carrés, Claude Guéant a du mal à trouver le sommeil. Il éprouve, selon un de ses proches, un fort sentiment d'injustice. La décision concernant sa demande de remise en liberté ne sera rendue que le 7 février prochain. Conséquence conséquences d'une précédente condamnation de 2017. Il n'avait pas payé les sommes dues au Trésor public dans l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur. Une partie de son sursis et de sa liberté conditionnelle avait donc été révoquée. Depuis, il a remboursé les amendes et les dommages et intérêts, selon nos informations, en empruntant de l'argent auprès de ses proches. Dans l'affaire des sondages, sur laquelle il sera fixé cet après-midi, le parquet national financier a réclamé à son encontre une peine d'un an de prison ferme.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1. L'événement passerait presque inaperçu et pourtant nous sommes à 2 semaines de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver qui se déroulent cette année à Pékin. Et si la Chine craint toujours le virus, elle craint aussi, semble-t-il, la liberté d'expression.
Oui, à 15 jours de la cérémonie d'ouverture, l'avertissement vient d'en haut. Le Comité international olympique et les autorités chinoises ne veulent pas que ces Jeux se transforment en tribune politique. Les athlètes sont donc priés de se taire. Sébastien Lebelzig, correspondant d'Europe 1 à Pékin.
Avec la pandémie, c'est l'autre grande menace de ces Jeux Olympiques de Pékin. Les autorités redoutent en effet que certains athlètes profitent de l'événement pour critiquer la Chine. Plusieurs pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon et l'Australie, ont annoncé un boycott diplomatique des Jeux en raison des violations des droits de l'homme en Chine. Un boycott qui ne concerne pas les athlètes. Alors le CIO leur a conseillé de tenir leur langue, sous peine de sanctions. Un message appuyé par le porte-parole de la diplomatie chinoise.
Le Comité international olympique a publié une déclaration sur l'interdiction des manifestations politiques et demande aux athlètes de ne pas protester sur les sites ou les podiums olympiques. Nous espérons que certains médias ne sortiront pas les choses de leur contexte et n'en feront pas un battage malveillant pour attaquer la Chine.
Les athlètes seront donc placés sous haute surveillance, y compris sur leur téléphone portable. Selon un laboratoire de recherche canadien, l'application servant de passe sanitaire aux participants comporterait des failles de sécurité permettant d'espionner les conversations. La Chine affirme les avoir corrigées, mais plusieurs pays conseillent à leur délégation de n'utiliser que des appareils jetables. Pékin, Sébastien Lebelzig, Europe 1.
Voilà, d'ailleurs, après le Canada, les États-Unis et l'Irlande, à l'Assemblée nationale en France hier a voté une résolution reconnaissant le génocide des Ouïghours. Allez, après les Jeux d'hiver, le football. Seb Blatter, l'ancien patron de la FIFA, livre ses vérités sur Europe 1. Il est éclaboussé, je le rappelle, aussi dans le scandale du FIFA Gate. Mais Seb Blatter n'est pas tendre non plus avec son successeur, l'Italien Gianni Infantino.
Oui, première interview depuis sa sortie de l'hôpital après une opération du cœur et une longue convalescence. Seb Blatter, toujours sous le coup d'une condamnation judiciaire pour escroquerie. On lui reproche de s'être arrangé financièrement avec Michel Platini afin qu'il le soutienne dans sa quête d'un nouveau mandat à la présidence de la FIFA. Instance dirigée aujourd'hui par Gianni Infantino, et Sepp Blatter n'est pas tendre avec son successeur Cyril de la Moinerie.
Oui, Sepp Blatter nous a reçus sur les hauteurs de Zurich, toujours aussi chaleureux et accueillant, mais le visage encore marqué par ces longs mois passés à l'hôpital. Au micro Europe 1 de Lionel Rosso, le Suisse de 85 ans étrille notamment son successeur Gianni Infantino.
Il n'est pas un bon président, je dois le dire. Il ne fait pas son travail correctement. Mais comme il ne parle pas avec moi, je ne peux pas parler avec lui.
Sepp Blatter aimerait, dit-il, réveiller Gianni Infantino, car l'ancien patron de l'instance mondiale voit d'un très mauvais œil le déménagement de son successeur au Qatar. Gianni Infantino a quitté Zurich, il s'est installé à Doha. Une grave erreur, estime en exclusivité sur Europe 1 Sepp Blatter.
Jamais j'aurais eu l'idée d'aller habiter dans la capitale où l'on joue la Coupe du Monde. La place du président de la FIFA, c'est la place où la FIFA son siège, et c'est à Zurich.
Sepp Blatter croit même savoir que la FIFA a pour projet de déménager son siège à Paris. Quant à ses démêlés avec la justice, Sepp Blatter affirme sur Europe 1 que lui et Michel Platini sont innocents. Et de conclure, la Suisse nous a virés car elle ne voulait pas de Platini à la tête de la FIFA.
Le studio des légendes avec Sepp Blatter, c'est une interview que vous pourrez écouter dimanche soir dans Europe 1 Sport dès 20h.
Merci Christophe Lamar. Vous revenez tout à l'heure.